Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot, hot.
Bonsoir à tous, bienvenue donc dans Soft Power, le magazine des industries créatives numériques de France Culture, jusqu'à 20h. Twitter est l'un des réseaux sociaux les plus intéressants de ces dernières années, même s'il est bien moins populaire, on l'a vu avec la remarque d'Alain Touraine, que Facebook, et peut-être dit-on parfois moins innovant qu'Instagram. En tout cas, il fête ses 10 ans avec ses messages en 140 signes. Twitter a révolutionné la culture, il a également révolutionné l'information et il a également accéléré cette accélération de la communication, conduit parfois à une sorte d'ivresse, de fébrilité du breaking news par exemple, être toujours au courant, en premier, avant les autres, un scoop chassant un autre scoop, toutes choses qui sont parfois critiquées ou qui font débat parce que les informations n'y sont pas nécessairement vérifiées, parce que tout le monde peut s'exprimer sur tous les sujets. Alors on peut aussi dire que c'est une forme de démocratisation, au contraire, de l'information et de la culture. Damien Vielle est le directeur général de Twitter en France et mon invité jusqu'à 20h.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Alors, vous venez d'inaugurer votre nouveau siège social à Paris, de nouveaux locaux près de l'Opéra. C'était en présence du Premier ministre Manuel Valls et de votre fondateur, Jack Dorsey, le patron de Twitter. Est-ce une manière de montrer que désormais Twitter, joue dans la cour des grands ?
Alors, formidable inauguration d'un nouveau bureau à Paris qui montre l'intention de Twitter de se développer fortement en France, d'accélérer en France. La France est un marché important pour Twitter avec beaucoup de caractéristiques dont on parlera tout à l'heure. Avoir Jack Dorsey à Paris, c'était extraordinaire pour nous. Ouais.
Jack, c'est son nom sur Twitter, @Jack, c'était le premier tweet envoyé dans l'histoire. Il l'a fait de son propre compte il y a 10 ans donc. Avec vous, on évoquera le modèle économique de Twitter, la règle des 140 signes qui pourrait connaître des aménagements, votre investissement dans la vidéo, notamment à travers Periscope, la question de la fiscalité en France, on parlera aussi de Vine, Periscope et Vine appartenant à Twitter. À mes côtés, tout au long de cette émission, Emmanuel Paquette de L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
À 19h20, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, nous parlerons des Madmen, autrement dit des Madmen, mais version 2016, version mathématique. C'est publicitaires qui utilisent les algorithmes et les données ou la publicité à l'âge mathématique, en prolongement d'ailleurs de l'émission que nous avons consacrée à cette question la semaine dernière, où je recevais Mercedes Hera, la patronne de l'agence BETC. Ce soir, c'est Mats Cardunner qui sera mon invité sur ce sujet pour l'agence 55. Bonsoir Mats Cardunner.
Bonsoir.
Les Madmen, ce sont des gens comme vous ?
Les Madmen ou les Madmen ? C'est difficile déjà à entendre.
Les
Madmen, alors ce sont des gens comme moi, effectivement, des gens qui sont...
Les Madmen qui font des maths.
Exactement, des gens qui ont compris que dans la communication et le marketing, il y avait maintenant une dimension mathématique, technologique, mais qui pour autant ne renie pas leur côté créatif. D'ailleurs, moi-même, je suis à la fois très, très rationnel et très créatif. Donc, ce sont des gens de la nouvelle génération qui pratiquent le marketing et la communication avec de la technologie et qui essayent d'améliorer cette discipline par de l'algorithme.
Votre agence 55, c'est une agence qu'on appelle de data marketing en fait.
En quelque sorte, c'est une agence en fait qui se spécialise dans la récupération des données qu'on laisse sur Internet à chaque point de contact, sur un mobile, sur un écran, pour les analyser et pour aider des marques à faire des messages marketing qui sont plus adaptés et des publicités qui sont moins intrusives et plus efficaces.
Mats Cardunner, donc pour les Madmen, Madmen qui fait des maths. Je rappelle d'ailleurs et je précise aussi que vous êtes l'ancien directeur de Google en France. Comme ça, ce soir, on a à la fois l'actuel patron de Twitter et l'ancien patron de Google. On écoutera également dans cette émission ce soir Moby, The Kills et Karen Ann. Tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h en direct sur France Culture, ainsi que sur notre playlist de Deezer, sur Instagram, sur Medium, sur Facebook, en podcast sur France Culture et bien sûr ce soir sur Vine, Periscope et un live tweet sur Twitter. Damien Viel, directeur général de Twitter en France, est mon invité jusqu'à 20h. Deux actualités cette semaine pour commencer cette émission, toutes deux liées à Twitter. On évoquait il y a un instant votre nouveau siège, inauguré la semaine dernière à Paris, dans le quartier de l'Opéra, en présence de Jack Dorsey, le fondateur et patron de Twitter, ainsi que du Premier ministre Manuel Valls. D'ailleurs, il y a eu des échanges de tweets. Jack Dorsey a répondu à Manuel Valls sur Twitter.
Oui, c'était une bonne journée. Il y a eu beaucoup d'interactions entre Jack Dorsey, qui aime beaucoup la France, qui en a profité pour rencontrer lors de sa visite à Paris toute l'équipe de Reporters sans frontières, qui en a profité pour rencontrer des élèves ingénieurs de l'école Télécom Paris Tech. Et puis il y a eu l'inauguration avec des rencontres avec des chefs d'entreprise, avec un certain nombre de partenaires qui font Twitter. Twitter est très ouverte sur un écosystème très large, puisqu'on travaille, on collabore avec des créateurs, avec des développeurs, avec des entreprises,
des journalistes, des agences d'emploi,
exactement.
Etc.
Et l'occasion était effectivement trop belle de voir aussi pour nous le Premier ministre participer à l'inauguration de ses bureaux de Twitter pour marquer aussi cette envie de voir Twitter se développer en France, parce que Twitter est une plateforme qui d'ores et déjà aujourd'hui est utilisée quotidiennement par des millions de Français et pas uniquement les cercles d'influence que l'on connaît.
Jack Dorsey était là. Jack Dorsey, figure finalement célèbre des start-up californiennes, qui a créé Twitter, qui à un moment donné avait été un peu marginalisé, qui est revenu au centre, qui reprend la main au fond sur Twitter. C'est une forme de confirmation qu'il a bien repris les rênes de Twitter, sa présence à Paris.
Ça, il les a bien repris, à la fois au siège de Twitter à San Francisco, mais également dans le monde entier. Twitter est une plateforme mondiale et il en profite donc pour donner les cinq directions que sont les siennes aujourd'hui pour la plateforme, de faire de Twitter une plateforme beaucoup plus simple dans son usage, une plateforme qui fait du sens, qui est utilisée, qui est encore une fois très facile à utiliser pour les 320 millions d'utilisateurs qui tous les mois se loguent à la plateforme. Le deuxième objectif, c'est la vidéo live, et vous en parliez tout à l'heure, l'importance et la révolution qui est en train d'apporter la vidéo live à Twitter, au monde des entreprises, au monde du journalisme, au monde à tout le monde finalement. L'importance, c'est le troisième élément pour Jack Dorsey, c'est comment est-ce qu'on est capable de créer un écosystème de créateurs qui sont finalement les gens qui vont mettre tous les jours sur la plateforme des services, des contenus qui vont être utiles et qui vont faire en sorte qu'on développe l'usage de Twitter dans le monde. Ensuite, le quatrième élément, c'est l'écosystème des développeurs, qui est pour nous très important. Il y a 400 millions de tweets qui sont émis chaque jour sur la plateforme, et ça nécessite d'avoir des gens qui comprennent, qui sont capables de se brancher sur des API, qui sont capables de développer des applicatifs autour de Twitter. Donc c'est tout ça qu'il est venu dire. Et puis cinquième élément, c'est la sécurité. Il a cessé de le rappeler depuis son retour. Twitter n'est rien sans garantir la sécurité de ses utilisateurs. On ne peut pas être la plateforme de la liberté d'expression dans le monde si on n'est pas capable de garantir chacun puisse s'y exprimer librement et en confiance.
Alors, parmi tous les sujets que vous avez évoqués, il y a quelques chiffres. Twitter en chiffres, vous l'avez dit, c'est 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Twitter. Ces utilisateurs sont massivement, pour plus de 83% d'entre eux, sur mobile. Ça veut dire que c'est d'abord un réseau social mobile.
Twitter est né sur le mobile et Twitter se développe considérablement effectivement sur le mobile. C'est des pourcentages encore plus importants quand on regarde la consommation vidéo sur Twitter. Ce qui est vraiment au cœur de la stratégie du développement de Twitter, c'est la vidéo aujourd'hui et c'est le mobile, les deux combinés, qui nous permettent effectivement aujourd'hui d'accompagner notre écosystème vers ces changements, vers ces transformations. C'est expliquer que la vidéo live aujourd'hui, c'est important dans tous les domaines de la communication corporate, des résultats financiers de PSA par exemple, jusqu'à LVMH le week-end dernier qui a retransmis en direct depuis les ateliers de Pucci en Italie les journées particulières. C'est également la vidéo live qui intervient de manière très, très importante dans les domaines du recrutement, dans les domaines des marques employeurs qui ont besoin d'aller communiquer ça. Et puis, c'est aussi un enjeu créatif important et qui nous permet d'accompagner les agences publicitaires pour comprendre ce que c'est que la publicité live sur le mobile.
On parlera tout à l'heure avec une agence publicitaire justement, 55, dirigée, co-dirigée, co-créée par Mats Kardunner, ancien patron d'ailleurs de Google en France. Mais autre point d'actualité cette semaine, ces derniers jours, ces dernières semaines qui concernent Twitter, c'est une évolution. Alors on sait, pour ceux qui utilisent Twitter, c'est un réseau social où on s'exprime en 140 signes maximum. Donc c'est une sorte de règle qui est à l'origine de Twitter, qui n'a jamais varié, comme quoi la brièveté faisait cette caractéristique première de Twitter. Or, cette règle pourrait évoluer, la brièveté ne serait plus totalement de mise. Quelles sont les évolutions que vous prévoyez par rapport à ces 40 signes ?
Alors, le retour de Jack Dorsey marque l'accélération, vous en parliez tout à l'heure, de l'innovation sur la plateforme. La plateforme innove et elle évolue de manière très accélérée. Il y a eu les 140 caractères, ensuite il y a eu l'image, il y a les vidéos, après il y a eu les vidéos live. On enrichit considérablement l'ergonomie et les gens
ont mis de plus en plus souvent des URL, c'est-à-dire des adresses internet, qui prennent beaucoup de signes, donc il a fallu ne pas les compter, elles sont plus décomptées pour l'essentiel de ces adresses.
Vous avez bien compris. L'objectif, c'est de continuer à simplifier l'usage de Twitter. Et simplifier l'usage de Twitter, on l'a déjà fait, on a réaménagé la timeline de Twitter pour concilier la notion du direct et du live des tweets avec l'importance des tweets. Comment est-ce que je suis sûr de ne pas rater un tweet qui peut être important pour moi ? Donc on a déjà fait ces gestes-là d'amélioration et de simplification de la timeline. Pour nous, il est bien entendu que...
On parlera de l'algorithme plus tard.
La prochaine étape, effectivement, c'est celle qui arrive maintenant. C'est celle de dire qu'il ne faut pas changer... Mais pour l'instant, l'ergonomie des 140 caractères, parce qu'il faut qu'on reste bref, il faut qu'on reste efficace dans la manière dont on délivre les messages. En revanche, il faut être capable d'enlever de ce qui compte moins, c'est-à-dire effectivement le nom et ce qu'on appelle le handle des gens à qui on adresse un message ou les références médias.
France Culture, le ad France Culture ne doit pas être décompté.
Eh bien, ça ne va plus compter là dans les prochaines semaines. De la même manière, quand vous faites référence à une vidéo, quand vous faites référence à un article de presse, il est bien pratique désormais de plus faire en sorte que ça compte à l'intérêt de 140 caractères.
Alors c'est aussi un moyen d'avoir plus de vidéos, plus de sons, plus d'images sur Twitter.
On est là pour enrichir l'expérience tout en la rendant de plus en plus simple. Vous avez compris.
Pour terminer cette introduction, un mot sur vous, Damien Viel. Vous êtes donc directeur général de Twitter en France, mais vous n'êtes pas né chez Twitter. Vous avez été à l'ESSEC, donc étudiant d'école de commerce. Vous avez aussi travaillé chez L'Oréal. Juste sur ça, au fond, L'Oréal et Twitter, c'est deux mondes bien différents. En termes de culture d'entreprise, quelle différence voyez-vous ?
C'est incroyablement différent. C'est-à-dire que c'est... Il y a deux success models, celui de la France, cette société de cosmétiques qu'on connaît, Mats d'ailleurs, ici au présent de la table, on sait quelque chose puisqu'il a passé quelques temps aussi. C'est une société très française, L'Oréal, qui a une culture très particulière. C'est la culture de la confrontation, c'est-à-dire la culture où vos décisions, vous les faites avancer à force d'arguments et à force de discussions. C'est une culture qui est aussi basée sur l'émulation, c'est-à-dire que les marques sont concurrentes les unes contre les autres. Et puis finalement, tout ça fait grandir la part du gâteau pour L'Oréal. Et puis, c'est une culture de ressources humaines qui est très, très hiérarchique, qui est très top-down, comme disent les Américains.
Ce que n'est pas du tout Twitter.
Et en face de ça, Twitter, et puis j'ai passé également 5 années chez Google auparavant, et on a des choses assez radicalement opposées, puisqu'on est sur une culture du consensus absolu, c'est-à-dire que les décisions sont prises par le groupe, par l'entité.
On n'aime pas le conflit.
On l'aime, mais on le gère différemment. Et ce qui fait qu'on
On
commence pas une réunion en voulant convaincre tous les gens autour de la table, puisque les gens autour de la table sont déjà convaincus. On va essayer de savoir comment est-ce qu'on va à l'étape d'après, comment est-ce qu'on pousse un peu plus loin la réflexion et l'ambition. La deuxième chose, c'est l'émulation, elle est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est la culture de transparence de ces entreprises, qui fait qu'on ne cache aucune information, que tout est disponible. C'est juste aux collaborateurs de savoir quelle est la bonne information à utiliser. Ces boîtes fonctionnent comme des moteurs de recherche où il faut aller chercher la bonne information, celle qui nous concerne. Et puis le dernier élément, c'est une gestion de ressources humaines qui est fondamentalement différente, avec des hiérarchies qui sont très plates et des évaluations qui marchent dans les deux sens. L'évaluation de mes équipes compte beaucoup plus aujourd'hui, par exemple, que l'évolution de mes patrons. Et ça, c'est un changement. Voilà. Et maintenant, savoir laquelle des deux, modèles est le plus successful ou le plus intéressant, vraiment, je suis incapable de vous dire, même si j'ai une petite idée.
Damien Viel, directeur général de Twitter en France, évalué par ses salariés. Vous pouvez lui poser vos questions autour de Twitter sur les réseaux sociaux, hashtag SoftPower, justement. Il est mon invité ce soir jusqu'à 20h. En 19h16 en direct sur France Culture, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, est à mes côtés, il le sera tout au long de cette émission. Rebonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Twitter, quelle stratégie de Twitter en France? Je vous laisse engager le débat.
Oui, alors j'ai déjà une petite question. Avez-vous lu En attendant Godot?
Il y a quelques temps, oui.
Il y a quelques temps. Alors je ne parle pas du livre de Samuel Beckett, je parle d'une note d'analyste de banquier qui est sortie donc la semaine dernière, disant que Twitter manquait tous ses rendez-vous. Ils ont manqué les rendez-vous de Moments, qui était un système pour mettre en avant des fils d'actualité, de presse et de médias en général, qui a été retardé à plusieurs reprises. Selon cette note d'analyste, ils ont manqué aussi l'intégration de DoubleClick, qui était une régie publicitaire pour l'intégrer directement dans le fil Twitter. Et qu'en réalité, Twitter ne grossit pas assez vite, ne va pas assez rapidement dans ses évolutions. Alors qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça, à cette note d'analyste? Est-ce que Twitter, il faut continuer d'attendre Godot, comme les 140 signes qui étaient annoncés en janvier et qui aujourd'hui encore n'ont toujours pas été modifiés?
Alors, je pense que la culture qui est celle de Twitter, c'est une culture qui n'a pas peur d'essayer des choses. C'est une culture qui a pas peur d'expérimenter, et à chaque fois qu'on lance quelque chose, c'est fait avec du succès. J'en veux pour preuve effectivement le réaménagement de la timeline, qui était une décision attendue, qui était une décision impliquante, et qui fait qu'aujourd'hui on augmente significativement le temps passé par chaque utilisateur sur Twitter. De la même chose, on a
concrètement
changé.
Concrètement, c'est lorsque vous arrivez sur Twitter, vous voyez ce que vous avez manqué parmi les tweets qui sont les plus susceptibles de vous intéresser. Donc c'est algorithmé.
Alors on commence par les tweets émis au moment donné. C'est-à-dire qu'on ne change pas l'immédiateté du tweet. C'est-à-dire que vous commencez par une série de tweets qui sont ceux que les flux auxquels vous êtes abonné vous envoient. Ensuite, effectivement, vous avez accès à des tweets qui sont ceux que vous avez pu rater. Mais c'est un algorithme très simple, hein, la gestion algorithmique, c'est juste on sait à peu près vos centres d'intérêt, les tweets qui vous intéressent et les sources qui vous intéressent. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, on a réaménagé cette timeline pour combiner finalement l'important et l'urgent. Et de fait, on voit une croissance très importante du nombre de l'utilisation.
Alors sur la question d'Emmanuel,
qu'on soit dans une entreprise qui essaye des choses. Moments que vous signalez, dont vous parlez, ça a été lancé aux États-Unis, ça a été lancé au Brésil, ça a été lancé au UK. La position qu'on a eue, nous, de dire en France, c'est d'attendre de voir ce que ça donne. On essaye d'apporter à nos utilisateurs des nouveaux services. Et ces nouveaux services, certains fonctionnent très bien, d'autres, effectivement, ont besoin d'être améliorés. Mais on a cette culture d'apprendre en permanence, qui est quelque chose qui est très important est très fort chez nous. Je reviens quand même sur la notion de temps. Un des messages principaux et clés de Jack Dorsey, c'est dire qu'on a le temps. On a le temps parce qu'on sait qu'on a une utilité incroyable dans le monde, et qui est d'être cette plateforme finalement aujourd'hui la plus puissante et en tout cas la plus influente de distribution de contenu. On intègre une dimension sociale, mais on est devenu une plateforme extrêmement influente de distribution de contenu. On a 320 millions de personnes dans le monde qui nous utilisent. J'en rajoute 500 millions si je regarde l'accord, parce qu'il y a aussi des choses qui marchent très bien. Hein. L'accord stratégique avec Google qui fait qu'aujourd'hui, dans le moteur de recherche Google,
on peut retrouver des tweets.
Les tweets sont... Vous regardez des grandes marques. Aujourd'hui, vous tapez Dove, vous tapez Nestlé. Le deuxième ou le troisième résultat de recherche
c'est Twitter.
Sur Google, c'est la page
donc,
Twitter de ces marques.
Twitter, c'est
donc
plus...
il y a 500 millions de nouveaux utilisateurs qui viennent se rajouter aux 300 millions d'utilisateurs. Ça, on en parle assez peu parce qu'on a décidé volontairement de pas leur montrer de publicité à ces utilisateurs-là. Donc, ils ne sont pas monétisés. Donc, on a des potentiels de croissance qui sont énormes. La chose à savoir, c'est qu'on a le temps d'avoir cette expérience qui est utile pour les gens. Et c'est vraiment le gros signal du message du retour de Jack Dorsey.
Pour terminer cette introduction, un peu longue finalement, il y a ce qu'on appelle les licornes, il y a ce qu'on appelle les GAFA, il y a aussi les NATO, il y a même les cafards. Alors vous allez nous dire à quelle catégorie vous appartenez, mais avant ça, Emmanuel va nous expliquer ce que sont ces catégories.
Oui, alors peut-être pour commencer sur les cafards, puisque c'est la plus récente, et c'est celle qui s'oppose à ce qu'on appelait jusqu'à maintenant, en 2015 en tout cas, les licornes. Alors les licornes, c'est des sociétés qui sont non cotées en bourse et qui ont des valorisations auprès des investisseurs de plusieurs milliards de dollars ou plusieurs milliards d'euros. Donc les plus connus aujourd'hui, c'est Uber, hein, par exemple, qui est non coté, mais qui vaut plus de 60 milliards de dollars. Après, il y a le site d'hébergement Airbnb. Donc on a des grosses sociétés comme ça, non cotées, avec des valorisations stratosphériques.
Les GAFA, c'est bien sûr Google, Apple, Facebook, Amazon,
voilà,
les Natu.
Elles sont déjà cotées en bourse. Et puis après, vous avez les Natu, c'est-à-dire effectivement la deuxième génération d'entreprises. Donc Netflix, coté en bourse. Airbnb, qui n'est pas encore coté en bourse pour le coup. Tesla, coté en bourse, donc les voitures électriques. Et puis, le dernier...
Uber,
exactement, qui n'est toujours pas coté en bourse non plus. Et donc Twitter, eux, font partie des sociétés qui sont cotées en bourse, mais dont la croissance est en train de ralentir, ce qui inquiète les marchés financiers. Et on en vient au cafard, c'est-à-dire qu'on estime qu'il risque d'y avoir sur les marchés financiers une explosion de la bulle Internet, et que les plus résistantes seront des sociétés dites cafards. Celles qui vont pouvoir résister, c'est des sociétés proches de l'équilibre financier, et qui aujourd'hui ont un modèle plutôt sain, où ils brûlent pas beaucoup de cash auprès d'investisseurs financiers.
Un cafard, ça brûle pas de cash.
Ouais, voilà, exactement. Et ça peut survivre à une explosion, non pas atomique, mais une explosion de bulles financières.
De bulles financières. Damien Vielle, vous vous situez où dans cette galaxie des cafards, des natous, des GAFA et des licornes?
J'aime beaucoup cette discussion parce que finalement, je rappelle que Twitter, c'est une société qui a 10 ans. C'est une société qui a à peu près tout changé dans la manière dont on communique. Et c'est aussi une société, qu'on le veuille ou non, qui connaît une forte croissance. Est-ce que vous savez qu'en 2014, la boîte a cru de 100%? En 2015, on a encore fait 58% de croissance. Donc, je m'amuse toujours un peu de donner ces chiffres-là, parce que est-ce que vous savez que Twitter, ça reste une société qui a une croissance extraordinaire, extraordinaire.
Non, mais là, vous parlez de chiffre d'affaires.
Et je parle pas.
C'est vrai que les analystes estiment qu'il y a eu 2 millions d'utilisateurs en moins sur le premier trimestre.
Mais moi, je vous cite un article de février 2013, à peu près des mêmes analystes, qui décrit une situation pour Facebook qui est dramatique. Et regardez la situation où est Facebook aujourd'hui. La mentalité qui est la nôtre aujourd'hui, l'envie d'aller de l'avant, l'investissement en France, et on en reparlera tout à l'heure, la France, c'est un marché qui, aujourd'hui, est un marché sur lequel Twitter parie, parce que ça fait partie des marchés qui ont un modèle extrêmement successful. Regardons plutôt ça.
Donc le géant Twitter face au petit Facebook, tout va bien dans le monde de Twitter.
J'ai plutôt dit, me semble-t-il, que les situations, en tout cas la nôtre, est plutôt extrêmement positive aujourd'hui.
Damien Vielle est directeur général de Twitter en France, mon invité jusqu'à 20h en direct sur France Culture. Vous aurez peut-être reconnu Memory Gospel de Moby, le musicien électro, qui vient de faire d'ailleurs la une du Guardian à Londres, version magazine du Guardian. Né à Harlem, Moby a été l'un des pionniers de la dance music. À l'époque, il était sobre et sain. Puis la drogue est venue, ainsi que les rêves partis et ses amis morts d'overdose. Il a sombré à mesure que le succès l'a atteint. Aujourd'hui, il publie ses mémoires, baptisées Porcelaine. On y apprend qu'il a eu une phase végan, qu'il a ouvert un restaurant végétarien à Los Angeles et qu'il défend assidûment les droits des animaux, qu'il a été aussi un punk chrétien et que oui, il a réatterri sur Terre. Je ne sais pas si ses mémoires vont intéresser beaucoup de monde, mais en les lisant, on apprend au moins une chose. Le musicien électro est le descendant direct de Melville, Herman Melville, oui, l'auteur de Moby Dick, d'où son nom de scène, Moby.
Soft Power. L'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions ou ses tendances. Et ce soir, justement, on évoque une tendance, les Mathmen, avec Matt Scardunaire, cofondateur de l'agence publicitaire 55. Comment on pourrait définir cette évolution qui est au fond celle du data et du marketing, et notamment des agences de data marketing, Matt Scardunaire?
Je pense que les Mathmen s'opposent aux Madmen qui ont été dans
grande figure de la pub.
Ouais, brillamment représenté dans cette série très connue. Ça représente en fait la façon de faire de la publicité
des années 50, des années 60.
Avenue Madison, à New York, les années 60-70, autour d'un verre de whisky, en fumant quelques cigarettes et surtout en débattant de concepts, d'idées pour faire du marketing. Ça reste toujours, mais il y a une chose nouvelle qui vient de se présenter, enfin qui se présente depuis plusieurs années, c'est l'arrivée de la technologie dans le marketing, parce que Internet est partout, et Internet, on le sait, bouleverse tous les usages en termes de commerce, de divertissement, d'éducation, d'information. Et il y a le mobile qui est là également, qui fait qu'on accède à Internet partout, tout le temps. Et donc, le marketing aujourd'hui, ça va s'appuyer sur ces deux gros phénomènes pour également être plus efficace, plus rapide, moins coûteux, et en se basant également sur la récupération de données. Et donc ces données, elles ont besoin d'être analysées, elles ont besoin d'être comprises. Les données, c'est celles qu'on récupère sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur, sur un navigateur. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, il faut des mathématiciens pour les analyser et pour les comprendre et pour aider les gens qui font du marketing et les madmen de l'époque à en fait adresser des messages qui sont peut-être de meilleure qualité, qu'on va tester avant pour savoir s'ils vont marcher.
On va mesurer après.
Voilà. Et en fait, donc, ça consiste à mélanger en quelque sorte le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau créatif et le cerveau un petit peu analytique, et à rajouter une dimension plus, ce qu'on appelle en anglais « data-driven », c'est-à-dire dirigé par les données, c'est-à-dire prendre des décisions en fait, qui sont fondées non pas sur des discussions ou des confrontations d'opinions, mais plutôt sur des calculs et des ratios et des analyses.
Alors dans tout ce que vous venez de dire, Matt Scardunaire, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'étape de récupérer les données, donc on appelle ça plusieurs termes, il y a des agences spécialisées, et ensuite il y a l'interprétation. Donc comment est-ce que vous vous situez, une agence comme la vôtre, 55, quels sont ces métiers qui apparaissent et qui fait quoi dans ce type d'agence?
Alors effectivement, il y a des métiers complètement nouveaux. Moi, tous les métiers qu'il y a chez 55, quand j'étais étudiant, ils n'existaient pas encore. Donc il y a ce qu'on appelle, donc j'en ai parlé tout à l'heure, des data scientists, donc des scientifiques de la donnée, des mathématiciens. Et d'ailleurs, on ne devrait pas dire madmen, on devrait dire aussi madwoman, puisqu'en fait, il y a une bonne moitié de ces personnes chez nous qui sont des femmes, et environ 45% de l'effectif qui sont des femmes. Donc nous, on se situe en fait sur les deux métiers, c'est-à-dire la récupération et ensuite l'analyse, c'est-à-dire comment donner du sens à cette complexité.
Alors la récupération, pour commencer par elle, c'est du data mining, on appelle ça notamment. D'autres oui. choses, et on va chercher les données. Ça se passe comment? Que fait une agence dans ce secteur?
Alors, grosso modo, on va utiliser des logiciels qui existent et qui sont en général édités par de gros éditeurs de logiciels, comme d'ailleurs peu de gens le savent, mais Google en fait partie, ou des sociétés comme Adobe ou d'autres. Ces sociétés sont spécialisées en fait dans le fait de pouvoir tracer en fait la navigation, récupérer grâce à ce qu'on appelle les cookies. Les cookies, ce sont les petits mouchards qu'il y a sur le navigateur et qui permettent en fait d'enregistrer toutes les pages qu'on visite, à quel moment on le fait, etc. Et donc ces logiciels, en fait, on s'est spécialisé, nous, dans le fait de les installer sur les sites de nos clients, de manière à les aider, à définir quelles données ils veulent, et puis ensuite à les mettre en forme et
à les interpréter. Alors ça, c'est le deuxième partie du métier. Avoir des données, c'est bien, mais c'est souvent des millions, voire des milliards de données. Il faut les faire parler.
Oui. Donc on parle de big data, effectivement. Ces données peuvent être dans des quantités astronomiques. Et là, donc, on en arrive effectivement à ces nouveaux métiers et à cette puissance en fait que confère au marketing les algorithmes et le calcul, tout simplement. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant. Donc, les gros bénéfices qu'on peut tirer de cette récupération de données, cette analyse, c'est le ciblage, donc un ciblage qui est plus précis, une personnalisation des contenus, c'est-à-dire le fait de proposer des contenus dont on sait, de par l'historique de navigation des gens à qui on les propose, qu'ils vont être plus, entre guillemets, satisfaisant, plus engageant. C'est également le fait d'adapter, de doser également, notamment la publicité, hein, de ne pas proposer trop de publicité, comme il y a 15 ans où on proposait des pages qui étaient remplies de bannières qui clignotaient dans tous les sens. Là, on va être dans des publicités qui sont plus affines, entre guillemets, qui sont moins intrusives. Ça va être le fait d'enrichir également la connaissance des gens qu'on rencontre sur ces applications, sur ces sites, et ça va être le fait de mesurer et de nourrir en fait les algorithmes avec des nouvelles données qui permettent d'être encore plus pertinents après.
Donc on peut dire que les data changent fondamentalement le marketing et la publicité presque d'une manière inexorable, définitive.
Alors on le sait peut-être peu, mais en fait il y a d'une part il y a presque 50% des investissements publicitaires qui se font sur des supports digitaux ou avec des supports publicitaires qui sont digitaux, donc des mots-clés, des bannières, des vidéos. Ça, c'est le premier phénomène. Et dans ces 50%, je crois qu'aux États-Unis, d'ailleurs, je crois que c'est cette année que le marché publicitaire devient majoritairement sur Internet par opposition à la télévision qui était chère à nos Mad Men. Et on sait moins également que dans cette publicité digitale, il y en a une grosse proportion qui est ce qu'on appelle programmatique, c'est-à-dire qui est le fait de placer des publicités de manière algorithmique sur des places de marché, un petit peu comme en finance, on est capable de faire du trading avec des algorithmes et des machines.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express.
Alors l'autre évolution qu'on voit un petit peu poindre, c'est qu'aujourd'hui, ces publicités ciblées sont généralement sur téléphone ou sur ordinateur. Et là, on voit quand même que les grandes chaînes de télévision commencent à se dire pourquoi ne pas insérer des spots publicitaires qui seraient personnalisés dans le flux. Et là, on voit qu'il y a des tentatives qui commencent à se faire un peu aux États-Unis, un peu en France. Est-ce que ça, c'est la prochaine évolution? C'est-à-dire, je regarde le 20h de TF1 et après le 20h, on verra tous un spot publicitaire après, mais ça ne sera pas le même. En fait, il sera ciblé en fonction de la personne qui regarde.
C'est une évolution prévisible de la publicité à la télévision, puisqu'en fait aujourd'hui on est capable, à travers les box, d'avoir une mesure précise de la consommation. Alors ce qu'on ne sait pas par contre, c'est qui est derrière l'écran, et donc ça c'est un petit peu, ça rend...
Au sein de la famille par exemple.
Voilà, au sein de la famille, ça peut être plusieurs personnes à la fois, mais néanmoins on peut, grâce à des calculs effectivement algorithmiques, proposer des publicités qui sont censément plus ciblées, plus localisées également, dans une ville, dans une région, etc. Et puis surtout on peut faire des interactions entre les écrans publicitaires classiques, donc les spots qu'on voit à la télé, et les gens qui, en général, sont en usage mobile également en regardant la télévision. Et ça, c'est une évolution qui est très spectaculaire, où on fait ce qu'on appelle du reciblage second écran, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer un message à quelqu'un qui regarde son mobile parce qu'on sait ou on suppose qu'il est en train de regarder la télévision. Donc ça, c'est vraiment des évolutions qui sont spectaculaires et qui rendent effectivement la publicité complètement différente aujourd'hui. On sort en quelque sorte de l'ère... de l'écran, enfin du fameux écran publicitaire avant le journal de 20h ou avant le film du dimanche soir, pour entrer, que d'ailleurs on sacralisait pas mal et qu'on attendait avec une sorte d'impatience, puisqu'il y avait aussi du spectacle là-dedans, à des publicités qui sont, en théorie, plus adaptées à ce pourquoi le consommateur ou la personne est là, ce pourquoi elle est en train de consulter tel ou tel site. Et donc c'est une révolution.
Révolution dans laquelle...
Qui est amenée par les algorithmes et par les nouveaux métiers.
Révolution, donc on l'a dit, du Mad Men au Mad Men. Est-ce que ça veut dire que les technos prennent le pas sur les créatifs?
Alors, pas du tout. Au contraire, je pense que le vrai défi de cette évolution, enfin le vrai travail, je pense, des gens de publicité et de marketing, c'est de faire fonctionner les deux ensemble. De la même façon que toutes les études qui prétendent pouvoir classer les gens entre cerveau droit et cerveau gauche démontrent qu'en fait, on fonctionne toujours avec les deux et qu'on aura toujours besoin de cette confrontation entre du créatif et du rationnel, et que c'est finalement cette utilisation de la donnée est une opportunité immense pour améliorer ou pour faire fonctionner mieux toute cette partie créative qui est quand même un besoin fondamental du marketing et qui le restera toujours.
Emmanuel Paquette.
Alors vous l'évoquiez un petit peu, mais il y a un petit peu un ras-le-bol de la population face à ces publicités. On voit aujourd'hui que les logiciels de blocage de publicité sur Internet se répandent de plus en plus. On voit que la Commission européenne aujourd'hui oblige les sites Internet à dire qu'un petit mouchard s'installe sur le site Internet que vous visitez au moment où vous le visitez. Donc on voit bien que quand même, il y a une réaction de la société civile face à cette montée en puissance de la pub et notamment de son ciblage potentiel.
Oui, absolument. Donc la première réaction en général quand je parle de ce sujet-là, c'est qu'effectivement, les gens sont plutôt sursaturés de publicité, que même s'il est supposément plus ciblé, en fait, elle n'est pas forcément bien dosée. Et on est parfois dans des ce qu'on appelle, par exemple, du reciblage. On va voir 4 fois de suite une publicité pour un canapé parce qu'on a surfé il y a quelques jours sur un site qui vend de l'ameublement. Donc ça, ça prouve quoi? Ça prouve, de mon point de vue, que ça prouve pas que ce système est défaillant. Enfin, en tout cas, qu'il n'est pas une forme de d'amélioration du marketing, mais ça prouve tout simplement qu'il arrive, enfin, qu'on est à un stade de développement qui est très peu avancé et que finalement, d'ici 5-10 ans, on arrivera à un équilibrage qui fera que les algorithmes, justement, permettront de ne pas être dans l'intrusivité. Mais ça montre surtout une chose très importante de mon point de vue, c'est que il y a un manque de connaissance du public et un manque de transparence également des gens de marketing sur la façon dont ça fonctionne et qu'il faut vraiment que tout le monde se concentre dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, sur un pacte entre guillemets entre les utilisateurs qui reçoivent ces publicités, les marques qui les proposent, de manière à ce que chacun sache dans quelles conditions sont collectées les données, donc qu'il y ait une transparence et notamment une réversibilité de la donnée que je donne, c'est-à-dire que je puisse éventuellement effacer mon compte et changer complètement mon historique de manière
avec à les cookies, etc. Voilà. Pour terminer, Mats Cardunner, je rappelle que vous êtes le cofondateur de 55, mais auparavant vous étiez directeur général de Google en France. 55 a été créé par 5 anciens de Google France. Ça veut dire que vous êtes forcément très Google, orienté Google dans vos activités. Vous connaissez bien leur technologie, etc. Et donc vous êtes une agence dédiée finalement pour une part à la connaissance de Google.
C'est plutôt qu'on a, grâce à Google, on a été dans une culture en fait de la donnée, parce que s'il y a bien une société qui est emblématique de l'utilisation des données, c'est Google. Donc on a appris en fait le pouvoir entre guillemets des algorithmes, le pouvoir de l'analytics. Donc cette discipline consiste à analyser et à prendre des décisions basées sur les faits plutôt que sur des avis. Donc on a eu cette culture là, et par contre on a bien compris également aujourd'hui que déjà il y a beaucoup d'acteurs, il n'y a pas que Google. Il y a énormément de lieux où on diffuse des publicités sur Internet. Et il y a une énorme complexité, il y a beaucoup de dynamisme et de croissance, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent tout le temps. Et donc, on réfléchit plutôt à une façon d'être, exhaustif dans les logiciels ou dans les partenaires qu'on a.
55, une agence de data marketing qui a été rachetée récemment par You and Mr. Jones, en l'occurrence la société de David Jones, ancien président d'Avas, donc qui est rentré à plus de 55%, c'est ça, au capital de 55.
Oui, c'est de l'humour de financier.
Voilà. Donc David Jones et Mats Cardunner s'allient dans la data. Merci infiniment Mats Cardunner. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture, 19h39, en direct jusqu'à 20h. Damien Viel, directeur général de Twitter en France, et Mats Cardunner, cofondateur de 55, sont mes invités jusqu'à 20h en compagnie d'Emmanuel Paquet, journaliste à L'Express. On se retrouve juste après Siberian Nights, The Kills. Seven seas. Is that too? à l'instant Siberian Nights par le groupe anglo-américain The Kills. Alors peut-être irez-vous découvrir ce morceau des Kills sur Spotify ou alors Deezer ou l'une des autres plateformes de musique en ligne comme Tidal aussi. Et à ce sujet, je vous signale l'apparition aux États-Unis de deux ouvrages qui abordent la question de l'avenir de la musique à l'âge du streaming. Le streaming n'est pas seulement un changement technique, c'est aussi un nouveau monde, de nouveau mode de consommation de la musique qui influence jusqu'à nos goûts musicaux. You May Also Like de Tom Vanderbilt est édité chez Knopf et Every Song Ever de Ben Ratliff est édité par Farrar, Strauss et Giroux. Ce sont les deux livres dont je vous parle ce soir. Tom Vanderbilt analyse comment nos goûts musicaux sont corrélés à nos autres goûts esthétiques, amoureux, mais aussi politiques, et comment les plateformes cherchent à monétiser ces corrélations. Alors, par exemple, si vous écoutez de la country, vous avez plus de chances de voter républicain ou démocrate. Si vous écoutez du rap, le heavy metal, je le dis pour vous, Emmanuel Paquette, est plus bipartisan. Se pose aussi la question de la prédiction de ces algorithmes qui vous disent si vous avez aimé telle musique, que vous pourriez aimer telle autre. Enfin, les auteurs analysent le gouffre qui existe entre la musique que vous dites aimer et celle que, en réalité, vous aimez vraiment. C'est pourquoi les algorithmes, d'ailleurs, se basent moins sur les notes que vous mettez aux albums que sur votre historique d'écoute. C'est beaucoup plus fiable. En résumé, la culture du streaming change fondamentalement la musique et à tel point que nous pourrions avoir besoin bientôt d'une véritable éthique du streaming pour s'y retrouver. You May Also Like de Tom Vanderbilt est publié par Knopf et Every Song Ever de Ben Ratliff est publié par Farrar, Strauss et Giroux.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Damien Viel, directeur général de Twitter en France, est mon invité jusqu'à 20h. Autour de la table également Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et Mats Cardunner, cofondateur de 55, ancien directeur général de Google en France, qui reste tout le monde reste jusqu'à la fin de cette émission. Alors on a évoqué un certain nombre de questions avec vous, Damien Viel, dans la première partie de cette émission. On va maintenant évoquer d'autres sujets, parfois plus spécialisés, mais peut-être avant tout, comment est-ce que vous voyez le modèle économique de Twitter ?
Alors, Twitter est un modèle économique qui est aujourd'hui essentiellement fondé sur la publicité. La publicité dont on parlait tout à l'heure, qui est une publicité qui... C'est marrant parce qu'elle reprend les trois principes fondamentaux qui étaient décrits par Pierre Bélanger, je me souviens, il y a 10 ans, quand il disait c'est quoi la publicité successful sur le web.
Fondateur de Skyrock.
Il disait il y a trois principes fondamentaux. Un, elle doit être non intrusive, elle doit pas vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que la publicité native sur Twitter, elle est tout à fait de cet ordre-là. Il dit deux, la publicité c'est quelque chose qui doit rendre service. Et je pense que la conception même de la publicité sur Twitter, c'est celle-là. C'est une publicité qui donne de l'information, c'est une publicité qui rend service. Puis le troisième, c'était une publicité, doit pouvoir appeler une réponse des gens. Et en fait, quand on regarde la manière dont est fait Twitter, en étant une plateforme live, une plateforme publique et une plateforme de conversation, on s'aperçoit que c'est tout ça aujourd'hui qui fait la publicité sur Twitter. Avec des nouveaux enjeux aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la publicité en direct pour une marque ? Renault s'y est lancé le week-end dernier en direct de Cannes, la publicité en direct sur Periscope, Nespresso l'a fait aussi, BNP Paribas le fait ce week-end en direct de Roland-Garros. Donc la publicité en direct devient un nouveau défi pour nous et il convient d'accompagner les agences dessus, donc essentiellement des revenus publicitaires, vous l'avez bien compris. Ensuite, il y a une partie de nos revenus qui provient de la data. Il y a un corpus de 400 millions de tweets émis par jour. On en est à 500 milliards de tweets depuis que Twitter a été créé. On a une société qui s'appelle Gnip et qui est une société qui aide justement les gens de marketing à comprendre la manière dont on peut interpréter ces signaux.
Les tendances du marché, le buzz qu'une marque suscite ou ne suscite pas, l'échec d'une campagne, qu'est-ce qu'on comprend en lisant ces données ?
On comprend plusieurs choses. On comprend effectivement les signaux faibles. L'interprétation des signaux faibles, c'est une marque qui est capable de détecter un problème sur ses produits, un problème sur ses lignes ferroviaires, un problème, voilà, c'est cette détection-là.
Un homme politique qui s'aperçoit qu'il n'est pas aimé, par exemple.
Par exemple, oui, tout à fait. Et puis, c'est également la possibilité pour les marques d'utiliser à grande échelle Twitter comme un centre de test, comme un centre d'études. Hein. Je pense à des grandes enseignes américaines comme Target qui utilisent Twitter comme vraiment le centre de la manière d'obtenir vraiment le pouls de leurs clients, savoir ce qui se passe en direct dans les magasins, savoir comment les gens réagissent à un nouvel aménagement. Tout ça, c'est important. Et puis, il y a la data qui est aujourd'hui utilisée par des gens qui font des recherches en data visualisation, des gens qui essaient de trouver la manière dont finalement on peut rendre cette data intelligible, compréhensible. Et c'est de la data publique, hein. Twitter, c'est tous les tweets sont publics. Donc, c'est un corpus extraordinaire pour tous les gens qui veulent en faire la recherche.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors ça n'intéresse pas, Twitter n'intéresse pas seulement les annonceurs ou les marques. Il se trouve que les agences de renseignement aussi, notamment aux États-Unis, la NSA a fait une demande à Twitter d'accéder à un service que vous avez qui s'appelle DataMiner, qui permet d'analyser justement les signaux faibles.
DataMiner ne nous appartient pas.
Hein. Non, vous avez 5%. Mais vous permet d'analyser les signaux faibles sur Twitter. Visiblement, la NSA s'est heurtée à un refus et je voulais savoir si en France vous aviez eu des demandes équivalentes des services de renseignement et pourquoi ce refus.
Alors, on travaille en étroite coopération avec les services de Bernard Cazeneuve. Il y a le groupe de contact permanent qui est pour nous un moyen de travailler, hein, et de coopérer avec ces services. On publie tous les 6 mois un rapport de transparence qui permet de dire combien de fois nous avons été interrogés par les services du gouvernement ou par la justice sur des données de connexion. On publie ça, hein, tous les 6 mois. On l'a publié assez récemment et ça couvre la période qui inclut le mois de novembre de l'année dernière. Donc vous imaginez bien l'importance que ça revêt. Donc on a aujourd'hui un échange et on travaille en bonne intelligence avec les autorités. Ça ne veut pas dire que toutes les portes leur sont grandes ouvertes, bien au contraire. Twitter, fondamentalement, est une plateforme de défense des droits, et d'expression et de la liberté d'expression. Parfois ça plaît, parfois ça plaît pas. On aime bien sa propre liberté d'expression, on aime souvent pas la liberté d'expression de son voisin, de son opposant. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de garantir la sécurité de nos utilisateurs et de faire en sorte qu'ils puissent continuer à exercer cette liberté d'expression.
Rappelons d'ailleurs que des mouvements de solidarité existent aussi sur Twitter. Le soir des attentats, un mouvement de solidarité est né sur Twitter avec le hashtag porte ouverte. On peut citer aussi la cagnotte qui a été créée pour offrir un fauteuil roulant à Philippe, hein, Philou Sports, un internaute myopathe, etc. etc. Emmanuel Paquette.
Un autre sujet en France qui monte en ce moment, c'est la fiscalité des entreprises, notamment les entreprises américaines. Il y a eu des perquisitions chez McDonald's, des perquisitions chez Google. Vous-même, je crois que le fisc s'intéresse un peu à Twitter. Qu'est-ce qui vous est reproché exactement? C'est de déclarer la totalité ou une grosse partie de vos revenus directement dans des pays autres que la France?
Vous avez des informations que je n'ai pas.
Il est très bien renseigné. Ouais.
Et je laisserai Nick Leader commenter pour Google. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est d'une part que Twitter respecte la totalité des lois françaises. Voilà. Et la deuxième chose que je puisse vous dire, c'est que, et notre nouveau bureau parisien dont vous parliez tout à l'heure, Frédéric, en est un signal, Twitter investit en France, investit considérablement dans ce nouveau bureau, dans des équipes, dans l'accompagnement des entreprises françaises, dans l'accompagnement des créateurs de contenu, dans l'accompagnement de la presse, dans l'accompagnement des sportifs, dans l'accompagnement... L'euro arrive, là je peux vous garantir que l'investissement qu'on fait aujourd'hui en France, il est énorme. Donc parlons plutôt de ça, si vous voulez bien.
Alex Ross est le principal critique musical du New Yorker, spécialisé notamment dans la musique classique. Il est aussi essayiste et on lui doit plusieurs livres passionnants sur la musique classique, notamment le très remarqué The Rest in Noise, à l'écoute du XXe siècle, ou encore Listen to This, la musique dans tous ses états. Lors d'un entretien réalisé il y a 2 semaines, je l'ai interrogé sur son rapport aux réseaux sociaux et notamment son utilisation de Twitter. Écoutez-le, Alex Ross.
I think I have a cautious yet...
Je fais un usage des médias sociaux prudent, mais tout de même intense, en particulier de Twitter, que j'utilise souvent, davantage pour écouter d'ailleurs que pour m'exprimer. Je le lis énormément, j'écoute ce que les gens y disent, c'est une source d'informations extraordinaire sur les scènes musicales dans le monde. Mais mes contributions propres sont plutôt concises. Je trouve qu'il est difficile de construire une argumentation sophistiquée sur Twitter en raison du caractère très court des messages.
Mais on peut dire aussi que Twitter, c'est d'abord un endroit où on met un lien, et donc le lien peut renvoyer vers un article de 300 pages.
No, it can, this incredibly concise form can indeed
Oui, cette forme très concise peut en effet renvoyer vers un morceau de musique de 5 heures ou un livre ou un article très long. Donc, en effet, il ne faut pas considérer Twitter uniquement comme un média à durée d'attention limitée. En fait, je pense que c'est un média très puissant et je l'utilise à la fois pour m'informer et pour renvoyer les autres vers des contenus intéressants, y compris, je l'avoue, vers mon propre travail. Je m'en sers aussi pour faire la publicité de mon propre travail, comme beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Mais je renvoie aussi vers des articles de collègues que j'ai trouvés intéressants, ou bien je conseille un concert dont je pense qu'il sera formidable. C'est une manière de dire essayez ça, allez regarder ça.
Try this, pay attention to that.
Alex Ross, critique de musique classique du New Yorker, traduit par Mathilde Wagman. On écoutera d'ailleurs cet entretien avec Alex Ross en intégralité prochainement dans Soft Power. Damien Viel, vous êtes le patron, le directeur général de Twitter en France. À l'instant, Alex Ross disait sa passion en même temps que sa frustration, d'une certaine manière, vis-à-vis de Twitter, qu'il utilise plus pour lire que pour parler. C'est un usage fréquent ?
C'est marrant parce que vous auriez pu avoir exactement la même conversation avec Renaud Capuçon, puisqu'il est assez fan aussi.
Et, le violoniste.
Et ouais, il en parle également dans ces termes-là. Mais ce qui est décrit là, c'est l'évolution générale des plateformes sociales. Il y a de moins en moins de quantité organique produite, mais il y a de plus en plus de gens qui lisent et qui consultent. C'est un mouvement
source d'information,
c'est
tout
un mouvement
autant que d'expression.
Je crois qu'une de nos plateformes concurrentes a publié néanmoins, enfin récemment, un chiffre avec une baisse de l'organique, du nombre de posts organiques très forte. Notre côté en France, on est encore sur une évolution à deux chiffres du nombre de tweets émis, mais on évolue encore plus vite sur le nombre de tweets consultés. Et c'est important de voir ce mouvement, effectivement, des plateformes qui restent des plateformes sociales sur lesquelles on converse, mais qui sont des plateformes sur lesquelles on vient de plus en plus chercher de l'information. Et c'est de l'information qui va être de l'information news. Twitter est une fenêtre sur le monde. On regarde ce qui se passe dans le monde, on regarde ce qui se passe à côté de chez soi, on regarde ce qui se passe sur la ligne 2 du métro, et on a de plus en plus d'informations à aller consulter et à regarder.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors ça crée aussi de temps en temps des nouveaux problèmes éventuels. Là, il se trouve que l'UEFA, donc qui organise la Coupe du Monde la Coupe d'Europe, pardon, du football dans quelques jours en France, a réuni tous les joueurs de foot pour leur dire n'utilisez pas Periscope et Twitter. Alors Periscope, c'est pour se filmer hein, et le mettre en live donc sur Internet, parce que ça peut poser des problèmes d'image, d'atteinte aussi à des accords qui ont pu être passés entre l'UEFA par exemple et des grands diffuseurs nationaux, et pour pas mettre en avant des marques par exemple, pour pas se mettre soi-même en avant. Est-ce que ça peut aussi être un frein, c'est-à-dire l'utilisation de ce genre de choses par des célébrités qui elles-mêmes doivent le faire dans des domaines très encerclés et très restreints pour ne pas déroger à certaines règles et à certaines lois?
Alors moi j'ai beaucoup aimé les conversations qu'on a eues avec l'UEFA au sujet de l'euro, parce que finalement ça pose la question de savoir à quoi sert Periscope et quelle est son utilité. Si c'est retransmettre le match que tout le monde va regarder par ailleurs, ça n'a aucun intérêt.
Pas sûr, en revanche, c'est sur certaines chaînes payantes. Hein,
en revanche, aller filmer des coulisses. Et ça c'était tout le propos, je crois, des gens de l'UEFA, que de dire comment est-ce qu'on peut donner, et ça va être aussi un des gros enjeux de l'élection présidentielle de l'année prochaine, comment est-ce qu'on donne un autre point de vue sur une campagne, comment est-ce qu'on donne un autre point de vue sur un tournoi. C'est filmé à côté, c'est filmé avant, c'est filmé des choses qu'on ne voit pas par ailleurs.
Et Facebook est dans une polémique aujourd'hui autour de contenus qu'on les accuse de favoriser, les contenus démocrates, donc de gauche. Donald Trump, lui, est sur Twitter toutes les nuits. La question politique joue, c'est important.
Alors, il y a un usage politique qui est très fort, et alors ça mène à vous dire aussi toutes les spécificités de Twitter en France, puisque Twitter en France, c'est une plateforme d'influence plutôt premium. 43% de l'audience en France, c'est CSP+, avec un usage très professionnel et très, très premium. Les gens qui utilisent Twitter en France sont plutôt éduqués, plutôt riches, mais néanmoins, il y en a beaucoup. Voilà. Et ça nous amène à regarder quelle est cette influence qu'aura notre plateforme pendant les prochaines élections. Alors nous, on ne peut pas faire le tri, puisque la totalité des tweets publiés dans une timeline sont accessibles. Il n'y a pas de tri. À partir du moment où vous suivez une source d'information, vous recevez la totalité et l'intégralité des tweets. Donc on aime bien cette position et cette posture de dire pendant les prochaines élections présidentielles, à la fois par Periscope et ce côté coulisses, ce côté confidence que va donner le direct, que va donner la vérité de ce direct à l'élection présidentielle, et puis aussi le fait que, eh bien, toutes les discussions interviendront sur la plateforme, nous donneront un rôle et une position, je l'espère, relativement intéressante dans la contribution qu'on peut avoir au débat d'idées.
Un mot rapide sur Periscope, vous l'avez cité, c'est une société qui a 200 millions d'abonnés, qui a été rachetée pour 100 millions d'euros par Twitter. Sans polémiquer, on a vu qu'une jeune fille s'était suicidée en direct sur Periscope. D'autre part, beaucoup aussi considèrent que parfois Periscope, ça peut être, dès lors que c'est la vérité du direct sans filtre, ça peut mener à une sorte de voyeurisme exacerbé ou extrême. Comment est-ce que vous organisez, comment vous réagissez, comment vous organisez la régulation de ce genre de contenu qui pose parfois des problèmes éthiques?
Alors c'est déjà c'est terrible. Je pense que quand il y a un appel au secours, pas être capable de répondre suffisamment tôt, c'est quelque chose de terrible. La manière dont on s'organise, à la fois sur Periscope et puis sur Twitter, c'est d'être capable de répondre à des signalements qui sont faits le plus rapidement possible. Twitter est une plateforme qui fonctionne par signalement. Quand vous détectez un contenu qui enfreint les règles de la plateforme, quand vous voyez des choses ou avec potentiellement des individus qui sont en danger, vous faites des signalements. Et notre rôle à nous en tant que plateforme, c'est de traiter ces signalements le plus rapidement possible. Donc on a 3 équipes réparties à travers le monde, il y en a une en Europe, il y en a une à Singapour, il y en a une à San Francisco, qui traitent 24 heures sur 24 les signalements qui sont émis sur Twitter et puis aussi sur Periscope. Et Periscope, parce que c'est de la vidéo live, nous oblige à raccourcir encore considérablement ce temps de réponse.
Contrôle. Et donc même chose sur les contenus terroristes, débats sur les messages djihadistes, etc.
L'ensemble des contenus qui sont interdits sur la plateforme sont traités extrêmement rapidement. Je vous rappelle qu'on a fermé depuis le mois de novembre 125 000 comptes terroristes sur Twitter.
125 000.
À travers le monde. Et que le traitement qui est fait de ces comptes, des contenus terroristes, est rigoureusement le même que les autres contenus qui ne sont pas autorisés, qui sont interdits sur la plateforme. I don't know how to make believe, nor how to make it right. But if any time you're planning to forgive, please let it be. On en reste là pour ce soir. Vous aurez peut-être reconnu la chanteuse franco-israélo-néerlandaise Keren Ann, dont on écoute le titre You're Gonna Get Love. Son nouvel album, le 6e, vient de paraître fin mars. Et Keren Ann a accompagné cette semaine Manuel Valls dans son voyage officiel en Israël, où elle est née. Je signale aussi 2 disparitions. On a appris tout à l'heure la disparition d'André Rousselet, incinérateur de cabinet de François Mitterrand, fondateur de Canal+, et surtout des taxis G7. Et puis, il y a quelques jours, la mort de Jean-Claude Decaux, pape du mobilier urbain, un secteur important pour la publicité. Vous pouvez retrouver toutes les sources de cette émission, articles de référence, liens internet, programmation musicale et livres. Consultez tout ça sur la page web de cette émission ainsi que sur Twitter au mot-clé Soft Power. Merci infiniment à Damien Viel, directeur général de Twitter en France. Mats Cardunaire, cofondateur de 55, Emmanuel Paquet de L'Express. Vous pouvez vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, assistée de David Lavaux. À la régie ce soir, Jean-Guilain Meige. Soft Power, une émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par Perret Legram. Et puis une annonce pour finir cette émission. Dimanche prochain, nous serons en direct du Centre Georges Pompidou pour un week-end spécial sur la création culturelle. Et dans Soft Power, nous nous concentrerons sur la création artistique numérique. Vous pouvez participer à cette émission en nous adressant d'ores et déjà des contenus numériques originaux. Le sujet général, c'est pourquoi la culture, sans point d'interrogation, hein, pourquoi la culture, ces contenus autour de pourquoi la culture doivent être à la fois artistiques et numériques. Sur Instagram, par exemple, vous pouvez poster des poèmes, des sortes de haïkus et devenir ainsi des insta-poètes. Par ailleurs, sur YouTube, les youtubeurs peuvent créer des vidéos d'art et devenir quant à eux des art-tubeurs. Allez-y, participez et nous porterons à l'antenne vos messages. Merci d'utiliser sur Instagram, YouTube ou Twitter les mots-clés ou les tags Weekend Imagine, W-E Imagine et Soft Power. Tout cela samedi et dimanche prochain au Centre Pompidou à Paris de 11h à 20h. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.